France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marianne Olfan. L'atelier des poussières, quel magnifique titre. Votre ouvrage a fait rentrer par ma fenêtre une autre vision de la poussière, des poussières au pluriel. J'ai trouvé ce livre léger, philosophique,
France Culture,
érudit,
le Book Club
est très profond.
Marie Richeux.
Des grains de poussière et de la pensée aujourd'hui dans votre book club. Pour son dernier livre, Marianne Alphand traque les particules partout où elles se déposent. Surface des meubles, étrange des livres évidemment, mais aussi dans l'exigence maladive de Marcel Proust. Nettoyée ou dissimulée par le travail pas toujours reconnu de nombreux domestiques, valets et servantes, poussière de nos corps réduits en cendres, poussière sniffée pour se doper ou accéder à d'autres mondes. Les idées, la poussière, on voit bien le rapport, écrit l'autrice, quelque chose d'infini, d'incessant, d'absorbant aussi, d'obsédant, on y succombe. Marianne Alphand est notre invitée pour ce livre génial. Ensuite, et comme chaque semaine, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Grâce à la rédaction internationale de Radio France Aujourd'hui, Marie-Pierre Véro nous emmène à Diyarbakır en Turquie, où l'on mène un combat modeste et essentiel pour la publication des ouvrages en langue kurde. Et enfin, comme chaque jour, on ne traquera pas la poussière, mais la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. À vos plumeaux, on est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Marianne Alphand.
Bonjour.
L'atelier des poussières à Paris aux éditions POL. Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir pour ce livre, je l'ai dit, que j'ai trouvé absolument génial. J'espère que mon enthousiasme sera partagé. Tout commence ici toujours par un portrait de lecture. On fait le portrait de nos invités, on fait connaissance avec elles, avec eux, en imaginant le parcours des livres qu'ils ont ou qu'elles ont trouvés sur leur chemin ou les livres qui n'ont peut-être pas été sur ce chemin. Il se trouve que vous publiez en 2008 un livre qui s'appelle Petite Nuit et qui, entre autres choses, parle de la place de la lecture dans une vie. Peut-être on part de ce livre-là et du goût que vous avez eu d'écrire sur la lecture, Marianne Alphand.
Oui, Petite Nuit, c'est sur la lecture et notamment les lectures d'enfance. Et c'était une façon, au fond, de revisiter une espèce de passion de toujours qui est comme une espèce de une façon de doubler la vie, ou aussi de l'intensifier. Tantôt, c'est une... on va dire que ça pourrait tenir de la maladie. Et c'est d'une certaine façon, je crois, parce qu'il y avait cette dimension obsessionnelle, addictive de la lecture dans ma vie, que ce livre s'est trouvé mélangé à la personne de l'analyste qui ne dit pas grand-chose, qui juste fait un petit oui pour relancer, voilà. J'avais essayé plusieurs façons de parler de la lecture. Je pense que l'un des points de départ, c'était, je crois que tout le monde a ça, ce sont des souvenirs de position de lecture. On se revoit dans telle pièce, à tel âge, lisant tel livre. Et j'avais une quantité considérable de ces souvenirs, beaucoup qui dataient de l'enfance et qui avaient quelque chose d'ailleurs de mystérieux, parce que ça n'était pas forcément... Par exemple, je me revoyais dans une pièce en train de lire Le Côté de Guermantes. Pourquoi Le Côté de Guermantes alors que ça aurait pu être, je ne sais pas, Du Côté de chez Swann ou À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est-à-dire que les souvenirs ne sont pas ceux, ne touchent pas les livres qui sont les plus importants. Hein. Par exemple, je me revoyais en voiture dans des embouteillages terribles. Je sortais du lycée où j'enseignais alors à Aubervilliers. Et donc, j'avais calé Mauprat de Georges Sand sur le volant. Et je continuais à lire avec une espèce de passion un peu névrotique. Et pourquoi Mauprat, alors que mon livre préféré et même addictif de Georges Sand, c'est François Le Champy. Bon. Donc, c'était complètement mystérieux et ça a été un des points de départ.
Est-ce que ça raconte, Marianne Alphand, que la vie ou les souvenirs comme ça d'images sont plus forts que les souvenirs laissés par le texte ? Parce qu'à vous entendre, c'est ça qui a imprimé plus, en fait.
Oui, mais bon, c'est parallèle. C'est-à-dire que, on peut parler de la comtesse de Ségur qui a été vraiment une espèce de lecture primordiale. Mais j'ai un
souvenir...
Pourquoi
primordiale ?
Alors peut-être parce que ma mère nous lisait, nous étions trois filles, et pendant les déjeuners, ma mère nous lisait La Comtesse de Ségur. Les livres rose qui venait de sa propre enfance, qui était une manière de nous faire tenir sages.
Pratique.
Nous obliger à finir notre assiette, sinon la lecture s'interrompait. Et il y avait une frustration très grande parce que c'était elle qui arrêtait. Donc flûte, il fallait attendre la suite le lendemain. On avait le droit à ce moment-là d'aller voir les images, les gravures des chapitres qu'elle avait lus. Et donc je n'avais qu'une hâte, c'était de savoir lire pour lire toute seule et ne plus dépendre de ma mère en quelque sorte. Donc la lecture a à voir avec des conflits très 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 anciens. Et donc la lecture de la comtesse de Ségur a été déterminante et elle est toujours présente dans ma vie. Hein. Je relis régulièrement la comtesse de Ségur.
En y trouvant quoi aujourd'hui ?
Alors c'est un retour. Ça a quelque chose d'inusable. Inusable. C'est-à-dire que lire l'auberge de l'ange gardien, c'est comme si c'était la première fois, alors que je l'ai lu 200 fois. Ça n'est pas me retrouver enfant, je ne crois pas. C'est une façon peut-être de vérifier ma vie, mon existence.
Je trouve ça très parlant, cette expression-là, parce que tout à l'heure, vous avez commencé par dire qu'une partie du geste de la lecture pouvait être de vouloir la doubler, cette vie. Or, l'idée de la vérifier me paraît encore plus puissante, plus forte, presque plus existentielle. Marianne Alphand, est-ce que vous pouvez préciser comment on peut vérifier sa vie en relisant un texte ?
Alors, il y a des vérifications différentes. Par exemple, on peut découvrir à la relecture qu'on a changé, qu'on n'aime plus les livres qu'on a adorés.
Bon signe ?
Alors, c'est troublant. C'est troublant. Pour prendre un exemple simple, j'ai adoré quand j'avais, je sais pas, 16 ans, Saint John Perse, et je ne peux plus le lire, quoi. C'est pas possible. Je trouve totalement fatigué, gonflé, pas bon. Donc, voilà, il y a des choses qu'on a adorées et qu'on ne peut plus lire. Il y a des choses qu'on a détestées.
Et qu'on aime maintenant.
Et qu'on aime maintenant. Bon. Je ne pense pas que ça m'arrivera. Tout le monde essaye de me faire lire. Je l'ai lu, mais je ne l'ai jamais aimé. Tout le monde essaye de me convertir à Chateaubriand. Je n'aime pas Chateaubriand. Et je me souviens de discussions, tout le monde disant « Oh, la vie de Rancée, quel bijou, etc. » Il suffit que j'ouvre ce livre pour que je me remette à détester Chateaubriand et
bon,
sa pose,
ça,
etc.
Vous vérifiez votre constance.
Voilà, je vérifie qui je suis. Voilà. Mais évidemment, quand c'est un changement, bah, je vérifie que j'ai vieilli.
Qui n'est pas tout à fait pareil que changer, tout à l'heure, vous avez dit.
Oui, c'est pas tout à fait pareil, mais bon...
Ça peut aller avec.
Cas étrange, par exemple, le cas de Marguerite Duras, que je n'aimais pas, que j'avais lu un peu, j'avais dû lire Moderato Cantabile, et puis Les petits chevaux de Tarquinia, et puis je n'aimais pas. Et puis arrive l'amant, j'étais à Libération à ce moment-là, on me demande de m'occuper de ce livre, je lis ce livre, je suis foudroyée, et je passe une partie de l'été à lire comme une folle, tout Marguerite Duras, et à découvrir à quel point c'était quelqu'un de... Bon, voilà, quelqu'un de formidable, quelqu'un de capital, quelqu'un de génial, etc. Donc, il y a des surprises, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que nous ne sommes pas figés, et que malgré l'accompagnement, le fait que je sois entourée comme ça, presque de garants de ma vie, comme la comtesse de Ségur, ou George Sand, ou je ne sais pas, je pourrais dire aussi la princesse de Clèves. Bon, voilà, des choses qui m'ont constituée, c'est là, c'est autour de moi. Et puis, autour, il y a des choses qui bougent un peu, mais il y a un socle.
Il y a un truc inamovible.
Voilà, il y a un socle. Il y a un socle.
Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de discussion, Marianne Alphand, sur l'idée que il y aurait une corrélation puissante entre les lecteurs, lectrices que nous sommes et qui nous sommes. Ça c'est collé, quoi.
Oui, c'est collé. C'est collé et c'est très, très étrange. Bon, on peut dire qu'à l'âge que j'ai atteint, les grandes lectures fondamentales ont été faites.
Vous vous dites ça, c'est sûr ?
Ben, je me dis que voilà, je ne peux plus découvrir Henry James. Voilà. Mmh. J'ai tout lu avec une espèce de passion, de voilà le côté systématique de la lecture, le côté un peu névrotique, c'est le besoin de tout lire d'un auteur, hein, voilà.
Mais des grands territoires comme ça, vous ne vous dites pas que vous avez encore des rendez-vous qui vous attendent.
Alors je peux relire des traductions nouvelles, par exemple. Bon, mais ce que je trouve très étonnant, bon, je vais dans une librairie, par exemple aujourd'hui, il y a tous les vient de paraître, etc. Mmh. C'est pas forcément ça qui va m'attirer. Donc je peux flâner à la découverte de quelque chose que je n'ai pas prévu. Mmh. Hein? Alors c'est bien pour les petites librairies, parce qu'on se dit qu'il faut soutenir les petites librairies. Donc, bon, j'étais l'autre jour à Argenteuil, dans une vraiment très petite librairie qui s'appelle Les Rêves, dont la libraire me disait que c'était la troisième génération et qu'après elle, sans doute, ça n'existerait plus. Et il y avait, bon, il y avait pas beaucoup de choses, mais je me disais...
Je vais trouver quelque
chose. Et paf, j'ai trouvé. J'étais très touchée de voir ça. C'était livre du dernier... les souvenirs du dernier témoin vivant de Radour-sur-Glane, qu'il a fait avec sa petite-fille. Bon, je suis repartie avec ce livre, j'étais très heureuse. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus... C'est très frappant, moi.
C'est plus ponctuel, vous diriez, dans votre vie, maintenant. C'est plus des œuvres, quoi. C'est plus des territoires qui s'ouvrent.
Alors, on se dit... Alors, j'ai des lacunes, j'ai des grosses lacunes. Donc, par exemple, je n'ai jamais lu Cervantes. C'est un truc qu'on ose à peine avouer. Mais je me dis, bon, il est là, il m'attend.
Bon, bah alors ça, potentiellement, c'est un territoire.
Voilà, mais sauf que peut-être que j'ai passé l'âge où ça m'aurait passionné. On ne sait pas. Le jour où je m'y mettrai, est-ce que ça va...
C'est dans ce sens-là que vous vous dites les lectures fondamentales, fondatrices, c'est passé, quoi. Ce sera plus de cet ordre-là.
Ce sera plus de cet ordre-là. Okay. C'est-à-dire que Proust, évidemment, je peux relire Proust pour la troisième ou quatrième fois, mais le moment de découverte absolue, d'enchantement, le côté... Quand on lit un auteur et qu'on en sort complètement... Alors, quelquefois, d'ailleurs, avec une espèce de dépression, parce qu'on l'a fini, voilà. Je crois que Proust en parle. Bon, le grand chagrin de sa vie, un des principaux chagrins de sa vie, c'est la mort de Lucien de Rubempré. Bon, on peut dire qu'avoir fini un livre qu'on a adoré, c'est déprimant. Bon, alors on peut le relire, et on va le relire très vite. Et puis, quelquefois, on va le relire toute sa vie, voilà. Donc, il y a des secteurs Bon, bien sûr, je peux relire tout Balzac, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà...
Que le premier choc, il est passé.
Le premier choc est passé.
Et ça, c'est... je crois que c'est la première fois qu'on nous dit ça de cette manière-là, Marianne Alphand. Et c'est triste, ça ? Enfin, je veux dire, c'est mélancolique ou pas ?
Alors, c'est un peu mélancolique, mais pas tant que ça, parce que c'est là. On sait qu'on a aimé.
C'est en nous,
ça fait partie du socle. Donc, bien sûr, je ne découvrirai plus Saint-Simon, mais je peux le relire. Et je sais qu'il est là, c'est moi, je l'aime, et voilà.
On va parler de votre livre à vous, Marianne Alphand. Juste après ce morceau, il s'appelle Le Feu. Il est interprété par la chanteuse Cindy Pouch, que Anna, qui réalise l'émission, a découvert dans un lieu parisien qui s'appelle le Cabaret Poussière. C'est un chouette lieu, apparemment. Je rappelle que votre livre s'appelle L'Atelier des Poussières. Et Cindy Pouch est née en France. Elle a grandi au Cameroun, puis elle y est revenue en France pour étudier la littérature et développer sa passion pour la musique, notamment les formes polyphoniques. Et c'est un extrait de son EP qui s'appelle Issemou.
Pourquoi tu me brûles? Je veux rester froide de marbre. Oh, ça me casse. Pourquoi tu souffles sur moi, feu de malheur, feu de malheur? Pourquoi tu me touches le brasier dans ma bouche me fait mal. Oh, ça me casse. Pourquoi tu ouvres mes bras, feu de malheur, feu de malheur.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Poussière encore, poussière partout dans votre book club aujourd'hui. Le projet du livre qui nous occupe ne se réduit pas à vous filer quelques conseils pour l'éliminer de vos étagères. Ce serait déjà pas mal, mais ce n'est pas tout. Dans une vive et brillante enfilade de courts chapitres, on va, toujours galopant, comme les domestiques servants et valets qui retrouvent ici leur nom, on va de maison de philosophe en labo de grand chimiste, on sonde les endroits où la poussière rejoint, dans l'air, la naissance des idées. Inquiétude, création, lutte des classes, système de pensée, c'est fou tout ce qui coagule dans la poudre magique de ce livre. L'atelier des poussières, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions POL. Marianne Alphand, on va lire le presque début. Autant s'y mettre de bonne heure avec l'éducation ménagère à l'école primaire qu'Émilienne reçoit pour son certificat d'études, comme elle le note en page de garde le 10 juillet 1924. Économie domestique, cuisine, hygiène et maladie, savoir-vivre, toilette et goût, éducation familiale, comptabilité et lecture, lecture suggérée par exemple, l'histoire d'une plante. Je sors de terre, c'est un arrêt qui parle, je travaille pour grandir, je lutte pour conserver ma vie, je travaille pour les autres, par ma mort j'engendrerai la vie. Travaillez, petite fille, et sachez comme moi vous rendre-t-il. Ou les ruses des microbes. Charbon, peste, malaria, sinistre et ennuyeux à voir plus tard. Émilienne saute les microbes en jambes, la tuberculose et l'alcoolisme, et s'arrête au dernier chapitre, la jolie maison et la toilette. Beaucoup mieux. Quand on a une maison jolie, nette, bien parée, on s'y sent aussi bien qu'un oiseau dans le feuillage. Et comme on y est heureux, on y reste. Si la maîtresse de maison ne s'oublie pas en visite et en bavardage, le chef de famille ne fréquentera pas le cabaret. Très bien. Reprendre au début du manuel. Chapitre 1er, l'air et ses poussières, inertes ou vivantes, composition, ventilation, notions sur le gaz carbonique et l'air confiné. Aéré, balayé, nouveauté préconisée, le balayage à la sciure de bois féniqué. Féniqué ? Allons bon. Inquiétude d'Émilienne qui s'est levée tôt pour obéir au manuel, qui a fait sa toilette et ne se montre pas échevelée de peur de produire dans son entourage une impression pénible. La voici balai à la main, mais surféniquée. Un dictionnaire dans cette maison ? Fénique, phénol, piqûre mortelle de phénol. Utilisation de phénol préconisée par le docteur Kellogg pour lutter contre l'onanisme féminin en brûlant le clitoris. Ils pensaient au petit déjeuner devant les boîtes de Kellogg's, inventées pour remédier par leur fadeur à l'excitation sexuelle. Le père du docteur Kellogg avait d'ailleurs une usine de balai, le monde est petit, décidément. On est quasiment au tout début de votre texte, Marianne Alphand, l'atelier des poussières, et j'espère qu'on entend la vive allure qui y règne. Ça va vite, il y a vraiment quelque chose qui m'a plu justement dans la vitalité, vivacité de ce geste d'écriture. Et on entend au tout début, peut-être pas dans ce passage-là, mais on se demande, la narratrice se demande avec nous, est-ce qu'on va commencer par Émilienne, ce personnage qui arrive, ou par Dieu ? Et la poussière du tout début. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, Marianne Alphand ?
Mais oui.
Par où ça commence ?
Mais oui. par où ça commence, oui, oui. Mais c'était la question, c'était les questions que Claude Simon se posait. Il s'était trouvé en Russie, je crois, une sorte de pen club. On lui demande, est-ce que vous avez des problèmes? Il dit, oui, j'ai trois problèmes. Comment commencer? Comment continuer? Comment finir? Donc, comment on commence?
Trois grandes galères.
Trois galères. Donc, comment commencer? Oui, alors, bien sûr, bon, il y a... C'est cosmique, c'est biblique, la poussière, c'est... voilà. Donc, j'avais le choix. Et puis, Emilienne est arrivée comme un... Comment dire? Comme une espèce d'accident. D'ailleurs, les choses de ce livre arrivent comme des accidents. Par exemple, le moment où je reviens à la philosophie qui a été ma première formation et où cette amie, Anne, qui faisait à l'époque son mémoire sur Hegel, m'aide à comprendre la phénoménologie de l'esprit et donc la question du maître et du serviteur. Voilà, c'est arrivé comme ça. C'était pas du tout prévu. Donc il y a Emilienne, mais peut-être aussi parce que j'ai une collection de livres sur le ménage, l'éducation ménagère, qui était quand même imposée aux filles, et réimposée en plus beaucoup plus, de façon beaucoup plus autoritaire sous le régime de Vichy, obligatoire. Donc voilà, j'avais cette collection, j'avais cette petite Emilienne très touchante, parce qu'il y avait son écriture sur le livre que j'avais acheté l'occasion, bien sûr, et tout de suite, ça devient étrange, à la fois drôle et tragique.
Absolument.
Parce que les filles sont tenues, voilà, d'être des ménagères, d'être au service. Donc, ces filles à qui on enseignait à faire le ménage, ça pouvait être à la fois pour satisfaire leur famille, leur mari, mais c'était aussi pour... elles étaient destinées à entrer au service, à devenir bonnes. Voilà. Donc il y a une dimension... comment dire, J'essayais de tirer ce drame féminin du côté... oui, de l'humour. Et donc, l'histoire du ballet finiqué, la surfiniquée, pouvait m'aider.
Oui, et puis, c'est une trame de ce drame féminin qui est l'un des fils, presque l'une des courses de votre livre. C'est comme si vous couriez plusieurs lapins en même temps, et c'est ce qui en fait la richesse, Marianne Alphand. Mais ça dit aussi l'ambiguïté immédiate de ce geste de la propreté, sur lequel vous n'allez cesser de revenir par plein de chemins différents, balayer la poussière. Là, le premier chemin, qui est un chemin entre la Genèse et, par exemple, le détournement des petites filles, de l'onanisme et de leur propre plaisir et de leur propre corps. Ça n'est pas un chemin anodin et c'est un chemin intéressant d'envisager toute cette agitation comme ça déployée pour faire le propre, oui, comme étant une dérivation d'une force libidinale qu'on aurait pu mettre ailleurs éventuellement.
Voilà, c'est-à-dire que tout le désir, tous les désirs de la fille, de la femme, de la jeune fille, de la femme, doivent se concentrer sur la tenue de la maison, la propreté. C'est fascinant, mais ça se comprend aussi parce que la poussière, on vit avec, c'est une présence permanente. Bon, je suis là, je regarde autour de moi.
Il y en a dans ce studio, en effet.
Oui, bien sûr. Si je regarde ce qui est au creux, là, voilà.
Du micro.
Oui, au creux du micro, il y en a forcément un peu. Donc, elle est toujours là. Donc, il faut faire avec. Il faut faire la poussière ou alors il faut l'accepter ou la déléguer. Donc on la délègue.
Ce sera l'autre course de votre livre, en effet, s'intéresse à ce qu'on appelle les domestiques, les servants, les valets. Mais revenons un instant sur l'autre route possible du début de ce livre, Marianne Alphand, qui est une route biblique, qui est une route astronomique, qui est la poussière dont nous sommes faits, la poussière à laquelle nous revenons. Et peut-être pour remonter encore plus loin, avant que vous y agglomériez toutes ces choses-là, il fallait bien que les grains de poussière vous attire, que vous preniez la décision que ce livre-là, ça allait être autour de la poussière. Ça arrive comment?
Oui, ça arrive comment?
Parce qu'on va rajouter un truc chez Claude Simon, qui est comment commencer, comment continuer, comment finir, mais comment avoir l'idée?
Comment avoir l'idée? Non, J'ai eu longtemps le désir, le projet d'écrire un livre sur le ménage. Parce que le ménage est une activité très, très rituelle, très obsessionnelle. Comme la lecture d'ailleurs, hein, comme l'écriture. Bon, c'est un, on va dire que bon, on écrit, on lit, etc. Mais à côté, il y a autre chose. Il y a une autre partie de la vie qui est consacrée au ménage, avec des ruminations mentales en même temps qu'on fait le ménage, avec des exigences, avec des, comment dire, de la négligence, de l'abandon, du renoncement.
Quelques satisfactions quand même de temps en temps.
Beaucoup de satisfaction, oui. Quand c'est propre.
Quand c'est fait.
Quand c'est fait, alors que ça apparaît comme une espèce de corvée au début. Et puis quand c'est fait, c'est une joie. C'est-à-dire que le monde est comme réinitialisé.
Absolument.
Tout est neuf. Tout brille. Voilà. Donc le monde est rendu à une espèce de jeunesse. La chambre, le bureau, les papiers, etc.
Et on y viendra, disponible à de nouvelles idées. C'est aussi l'une des courses de votre livre.
Et puis à nouveau, elle revient. Bon, c'est jamais la même, c'est une autre.
Mais
La poussière. C'est à la fois c'est quelque chose d'infiniment familier et d'infiniment étrange, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait même pas comment elle entre dans des lieux clos, quoi.
Donc vous aviez ce projet sur le ménage.
Voilà.
Et ça s'est précisé sur la poussière.
Voilà. Un jour, ça s'est précisé sur la poussière.
Qui est aussi une histoire de précision. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous avez dit, vous voyez, je suis dans le studio, et si je regarde dans le creux, comme ça, c'est vrai que les micros s'originent dans une espèce de trou noir, là, c'est très métaphysique. Mais c'est aussi un rapport au monde, un rapport au regard et aux détails qui existent dans ce livre-là. Vous l'avez dit, on peut déléguer le fait de faire la poussière. C'est une des autres courses de votre livre qui s'intéresse aux valets, aux domestiques, notamment, par exemple, celle de Marcel Proust. On va entendre la voix de Céleste Albaret. C'est des enregistrements qui datent des années 1970, le tout début, des souvenirs qui sont recueillis par l'écrivain Georges Belmont, qui ont été longtemps comme ça ignorés et retrouvés à la BNF. On écoute un extrait.
Marcel Proust me tenait au courant jour par jour de tout ce qui se passait, où il disait que j'étais vraiment indispensable pour son travail et pour tout. Et du reste, il m'a fait très souvent le compliment, je m'excuse d'être ici, si orgueilleuse de ça, mais j'en suis très fière, que vraiment il me devait tout, car s'il avait fait son livre, c'était grâce à moi qui avait resté toute la vie sans me coucher pour l'assister dans son travail. Et alors, de ce fait, il me lisait toutes ses lettres, il me mettait tout au courant, car j'étais obligée de correspondre avec le dehors pour lui-même, et en quelque sorte de suivre ce qu'il désirait au plus près, puisque c'était mon désir également de faire tout ce qu'il désirait au mieux. Il était évidemment très tyrannique, si on veut le voir par là, parce qu'il n'y avait pas d'heure, de jour ni de nuit, où au moment où il voulait quelque chose, il fallait qu'il l'ait. Et par conséquent, il ne ménageait rien que de vous le demander toujours avec une extrême gentillesse. Et moi, je l'aimais tellement, je m'étais tellement attachée à lui, que même dans mon sommeil, n'importe quelle heure, j'étais heureuse de lui faire plaisir. Parce qu'il émanait en lui-même une espèce d'atmosphère où on se plaisait même dans cette tyrannie.
On entend la voix de Céleste Albaret, qui est auprès de Marcel Proust pendant 8 années, jour et nuit, nuit et jour. Elle l'a aidé dans sa vie quotidienne. Vous y consacrez de nombreux passages dans votre livre, Marianne Alphand. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette figure de Céleste Albaret ?
C'est une figure de la soumission et de l'enchantement. Mmh. C'est-à-dire que...
Presque de la... Si on écoute cette archive sans a priori, c'est une archive de la soumission à la tyrannie qui presque paraît comme une soumission heureuse.
Très heureuse, très heureuse. Et bon, ce livre, donc les souvenirs de Céleste, c'est une espèce de déloge continuelle et je pense que très réellement, elle qui n'était qu'une paysanne, il lui a ouvert un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Donc, mais en même temps, sa tyrannie est féroce. Il y a un livre qui a été écrit par Laure Hillerin qui s'appelle « À la recherche de Céleste Albaret ». Et elle ressort les disputes, parce que non seulement il était tyrannique, mais il était bon, très impatient, etc. Mais par moments, il ne la supportait plus, parce qu'elle avait fait quelque chose, elle avait mal fait quelque chose. Bon, ces histoires de café très particuliers, bon. Et donc, il la renvoyait. Et puis, il ne pouvait pas se passer d'elle, il la reprenait. Et il lui écrivait des mots, quelquefois des mots assez méchants, etc. Donc, c'était comme un couple assez fusionnel, tout à fait extraordinaire.
Tout à fait toxique.
Tout à fait toxique, oui. Tout à fait toxique, oui, oui, bien sûr.
Et puis, il y a quelque chose aussi dans le rapport à la poussière, pour Marcel Proust, c'est l'asthme.
Bah, c'est l'asthme.
C'est la maladie respiratoire. Oui. C'est l'idée que dans l'air, il puisse y avoir le mal.
Oui.
Et ça, c'est aussi quelque chose que vous allez voir, Marianne Alphand, c'est le côté très microscopique de cette poussière-là. Son aspect particule, ça vous intéresse aussi, cette idée-là, chose que vous pouvez retrouver avec Simone Veil, qui travaille à l'usine. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, bien sûr, le rapport à l'infiniment petit. Simone Veil, justement, parmi tous les philosophes, enfin, qu'on pourra évoquer peut-être tout à l'heure.
Qui touche assez peu à la matière, elle y va.
Elle travaille à l'usine. Elle est obligée, comme elle dit, de tuer sa pensée. Et elle a le moment où elle sort de l'atelier, où elle a de la poussière métallique partout sur elle, etc. Elle a toutes sortes de maladies dont les philosophes, les hommes, se sont bien préservés. Voilà, l'infiniment petit, le rapport au détail. Dans le cas de Céleste, c'est particulier puisque la poussière est mortelle. Mais en même temps, donc il ne ramasse rien. Par exemple, il y a un porte-plume qui tombe par terre.
Marcel Proust ne va pas le chercher.
Ben voilà. Donc il l'appelle. Il la sonne.
Bon. Et il y a quelque chose comme ça de cette relation que vous allez suivre aussi dans différents couples, maître et valet, maître et servant, maître et domestique, à tel point, Marianne Alphand, qu'il y a à la fin de votre livre un répertoire où ils sont récupérés par leur nom et leur prénom, ces présences très invisibles, à peine regardées, moquées, vous citez Jonathan Swift. Il y a quelque chose aussi qui vient redonner une dignité à ce travail-là.
Oui, bien sûr, on les appelle par leur prénom ou leur nom de famille. On leur change souvent leur nom. Ils arrivent, on leur dit, bon, vous vous appellerez Picard, ou bon, voilà. On ne les regarde pas. Alors évidemment, disons généralement, on ne les regarde pas, mais ce qui est la force du théâtre classique, de Molière, de Marivaux, etc., c'est au contraire de les mettre en lumière. Ce sont les ressorts puissants. D'ailleurs, si Molière choisissait de jouer Scapin ou Sganarelle, c'est bien parce que c'était les figures.
Les plus puissantes.
Ben, les plus puissantes, bien sûr.
Souvent au courant de toutes les manœuvres,
mais bien sûr.
À qui l'on remettait les billets.
Et bien sûr, et le maître dépense. Et là, bon, voilà, il montre la dépendance, mais c'est une dépendance mutuelle. Le pauvre Sganarelle qui crie mes gages à la fin de Don Juan ou le Festin de Pierre, il n'est pas payé, il est maltraité. Bon, voilà, donc il y avait cette présence latente des domestiques partout, avec, disons, les plus contemporains, hein, les anecdotes sur les valets du prince Charles, qui est maintenant le roi Charles, sont, on peut dire qu'elles sont fantastiques. L'idée qu'il lui faut un valet pour mettre son dentifrice sur sa brosse à dents, ça, voilà, c'est, oui, je dirais que c'est fantastique. Donc le monde est encore composé de maîtres et de serviteurs.
Il vous mettait en lumière, Marianne Alphand, par la poussière. Souvent d'ailleurs, la poussière permet de mieux voir les contours, d'une certaine façon. Vous mettez en lumière l'interdépendance de cette relation de domination. Certes, vous montrez la domination puissante des maîtres sur les servants, sur les valets, sur les domestiques. Mais vous montrez combien est-ce qu'elle est étonnamment double, notamment à propos de la poussière. On lit un nouvel extrait de votre texte. Pincée d'orcanette ou décoction de bois de Pernambouc pour l'acajou. Écorce de noix verte bouillie pour le chêne sombre. Bois de campêche et alun pour l'ébène. Meubles, planchers, cristaux, tout doit briller. Poli, pur, neuf, laqué, tranquille. Quelle paix quand l'ordre est devenu un réflexe. La propreté, un besoin. y penser et se le répéter en faisant le ménage. Un murmure d'accompagnement, un bourdonnement privé, chaotique et minuscule, une messe basse. Les domestiques parlaient latin dans l'empire austro-hongrois. Hegel ne l'a pas vu, mais paradoxalement, cette histoire fondée sur la peur va produire des peurs symétriques. L'un plie les chines, l'autre craint la souillure, le valet tremble, et le maître est phobique. Crasse, ordure, déchets, gadoue, vermine, tout le menace. Les rebuts, les dépôts collants, les taches d'il ne sait quoi d'immonde, au secours, crise d'asthme, vapeur, il s'affole, appelle Clove, Anders, Scapin, Céleste, Jacques. Ne me laissez pas seul avec ça. Vous voulez ma mort ?
Le paradoxe de cette figure, c'est que le maître, dans sa position, se trouve dans une situation de servitude. C'est lui le véritable individu asservi. Pourquoi ? Parce que d'une part, il a besoin, pour se confirmer lui-même en identité de maître, pour être le maître, il a besoin d'être reconnu comme tel par l'esclave ou par le serviteur. Et donc, il s'avère finalement dépendant de celui qu'il domine.
La voix d'Olivier Tinlan en 2011 à propos d'Hegel sur cette dialectique maître-esclave, maître-dominé, maître-valet, et juste avant un extrait de votre livre Marianne Alphand, L'atelier des poussières, avec cette phrase géniale et sur les peurs symétriques. L'un plie l'échine, l'autre craint la souillure, le valet tremble, mais le maître est phobique. Est-ce que vous avez vu venir que ce livre-là, où elle essaie d'agglomérer les poussières, prendrait à ce point le virage d'une observation de cette relation-là ?
Je crois qu'il y a une dimension imprévisible dans l'écriture, pour moi en tout cas. Hein. J'écoutais l'autre jour, je réécoutais l'entretien que vous aviez fait avec Camille Laurence, qui disait qu'elle avait besoin, pour commencer à écrire, pratiquement de la fin. Là, ça me tuerait, ça. C'est inimaginable. Bon, j'ai besoin d'un début, mais la fin est imprévisible, et ce qui se passe au milieu est aussi imprévisible. Donc, oui, il y avait le serviteur qui était là, il y avait ce défilé de valets, etc. Je n'imaginais pas que ça pouvait... Je ne savais pas où ça allait m'entraîner. Mmh. Hein. Et donc, c'est une des choses formidables quand on écrit, justement, c'est d'être surpris par les bifurcations, les enchaînements,
Les associations d'idées, presque.
Oui,
quand je dis que ça va vite, c'est que c'est aussi cette qualité-là.
Oui, ça bifurque, ça s'associe, ça s'engendre, ça... Alors bon, ça s'engendre beaucoup plus lentement que dans le résultat que j'en donne, parce qu'il y a des tas de versions plus antérieures qui sont plus lentes, etc. Et je me disais, non, il faut couper. Et c'est quand on coupe que tout à coup, ça devient plus vivant, plus vif, etc. Il faut toujours retirer il faut toujours dégraisser, quoi. Bon, voilà. J'aimais beaucoup ça. C'était ce qu'avait dit une fois Marguerite Yourcenar. On lui demandait, je crois que c'était Pivot, qui disait, vous n'avez pas des petites manies. Elle disait, je peux vous dire ça. Quand je relis une page, que je retire des mots, je les compte et je note en bas de la page combien j'en ai retiré.
Comme un butin, presque.
Comme un butin, j'adore ça.
Ça, c'est fait, disait Marguerite Yourcenar. Il y a quelque chose aussi dans ce paragraphe. Bon, il y a de l'humour tout au long de votre texte, Marianne Alphand. Ne me laissez pas seule avec ça, pas seule avec la mort. Évidemment, il y a quelque chose dans votre atelier des poussières qui a à voir avec ce début de poussière que nous sommes et puis la poussière à laquelle nous reviendrons. Mort qui plane, avec laquelle votre voix entretient une relation là aussi virevoltante, parfois grave et parfois joueuse. Vous diriez que c'est ça aussi la poussière, c'est finalement sans trop s'apesantir dessus, c'est notre conscience de la très grande fragilité, caractère très éphémère de notre enveloppe corporelle.
Oui, c'est notre déclin. C'est-à-dire que nous, bon, on traverse une pièce, on perd de la peau, et ça sert beaucoup dans les romans policiers, justement, bon, parce que voilà, il y a des petits trucs comme ça qui restent et qui permettent de retrouver qui est passé par là et nous. Bon, donc, mais c'est pas seulement ça, c'est que les objets qui se ternissent autour de nous, qui se recouvrent de poussière, donnent une idée de déclin et d'usure. Et c'est pour ça que bon, c'est ça que le maître impose aux serviteurs, entre autres choses, c'est que ça redevienne comme neuf. C'est aussi pour lui une façon de se prolonger et de... Bon, je pense que tous les maîtres rêvent d'immortalité. Donc la poussière est une menace pour le maître.
Il y a une autre course, puisque c'est comme ça que j'ai désigné les lignes de force de votre livre, Marianne Alphand, c'est l'endroit où se rejoignent les idées et les particules dans l'air. Il y a quelque chose de l'abstraction que vous reliez entre ce que c'est que la naissance d'une idée, la naissance même d'un système de pensée, d'un système philosophique et ces toutes petites particules. On écoute un nouvel extrait. À conseiller à Kierkegaard, ce grand mélancolique, toujours souffrant, dépressif, angoissé, usant de tous les remèdes. Se fiancer, aller au théâtre, rompre ses fiançailles, s'enivrer, flâner en gesticulant avec sa canne et en parlant tout seul, ou faire des randonnées dans la campagne avant de rentrer travailler, dîner frugalement d'un bouillon et d'une aile de poulet, allumer des bougies, boire du café fort, très fort, chaque jour dans une tasse différente, superstition, gris-gris de penseur. Les idées ne tombent pas du ciel comme des raclures d'atomes. Une tasse nouvelle, crac, un flash. Encore une fois, nous disions-nous, on ne pense pas sans rien. Il faut le calme, le silence, le confort. Une chambre capitonnée de liège, une île, un poêle, une grotte, une cabane en Norvège, une collection de tasses dans un vaisselier, des déménagements successifs, un coup de poignard dans un manteau, des fils et une aiguille pour coudre ses notes en liasse, une corde tendue d'un mur à l'autre pour y suspendre avec leur titre. Ordre, vanité, misère, ennui, grandeur, contrariété, divertissement, philosophe, commencement, etc. Une chaise, comme celle où dormait Leibniz. Pas de temps concédé au sommeil, un esprit en surchauffe, une masse de notes et un grand placard où les entasser. Trop de brouillon pour s'y retrouver, on s'en doute, le placard était anarchique, il fallait régulièrement tout reprendre. Bouillonnant ou pas, l'esprit a besoin d'ordre pour disposer les instruments de la pensée, clepsydre, astrolabe, polyèdre, sphère. Qu'est-ce donc qui nous manque, nous disions-nous. Divaguer, nous savons. Songer, rêvasser aussi. Mais philosopher, penser, réfléchir, raisonner, se concentrer, spéculer, concevoir. Pas de manuel pour ce genre d'activité. Celui d'Emilienne lui fait répéter « plumeau, pistolet, parcelle de peau ». Elle sait qu'en luttant contre la poussière, le ménage se bat contre la mort. Mais nous ? C'est un nouvel extrait de l'atelier des poussières, Marianne Alphand, où vous vous demandez, ou en tout cas la voix qui nous emmène là dans cette course, se demande ce que c'est que penser, au fond, et ce qu'il y a de commun entre la poussière ou faire la poussière, je dis ça alors qu'il y a un truc, il y a vraiment des particules de poussière dans la lumière du studio, et avoir une idée.
Oui, on ne sait pas d'où vient la poussière et on ne sait pas d'où viennent les idées. Et ce qui est arrivé aussi, comme ça, comme quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est ce moment où j'essaye de répertorier tout ce qui aide à penser ou tout ce qui aide à philosopher. Parce qu'évidemment, le philosophe se dit qu'il a besoin de rien. Bon, voilà, il est dans une chambre, voilà. Bon, on va faire table rase et on va reprendre tout de zéro. C'est comme, évidemment, c'est Descartes. Mais en fait, on voit que... Bon ben, Sartre, c'est la Corydrane, c'est les tubes de Corydrane, bon voilà, Kierkegaard, il lui faut des collections de tasses pour boire du café. C'est-à-dire qu'il y a...
D'autres mettent des substances dans leur pipe, d'autres sniffent de la coke.
Voilà.
De nouveau la poussière, d'ailleurs.
Bien sûr. Et que notre... au fond, tout le monde cherche comment penser. Mmh. Et quand on trouve une poussière qui aide à penser, une poudre, un pharmacone, c'est... Voilà, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est... Donc... quand on pense que, au fond, la guerre éclair de Hitler, c'est la pervitine, que les soldats et les chars, etc., ont foncé très très vite parce qu'ils étaient tous drogués, on voit bien qu'il y a une espèce de vitesse, d'excitation, de rendement. On est au maximum de soi avec cette petite poussière d'ange. Ces petites poudres qui...
Croit-on qu'on est au maximum de soi ?
On le croit.
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que c'est comme ça qu'on se sent.
Ben, on se sent comme ça, au maximum de soi. Donc, voilà, la poussière, cette poussière particulière, elle aide à penser. Est-ce que c'est elle ? D'où viennent les idées ? Est-ce qu'elles viennent... est-ce qu'elles viennent du... est-ce qu'elles viennent de la corridra ? Non. Mais... Nous cherchons des façons intenses de penser.
Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous réunissez dans une forme de colloque marrante et anachronique, Marianne Alphand, beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs, d'écrivains, d'écrivaines, des hommes qui, en effet, ont plein d'outils pour penser. Qui se préoccupent pas vraiment de la vie matérielle, de qui va vraiment faire la poussière, qui ne se rendent pas tellement compte qu'une partie de leur esprit est libre pour penser parce que des tâches, d'autres, on l'a dit, des valets, des domestiques, des servantes s'y sont collées, mais aussi les femmes. C'est-à-dire que vous racontez aussi par le creux, Marianne Alphand, toute cette poussière défaite du monde pour que les hommes pensent, geste fait par les femmes.
Oui, bien sûr. Partage des tâches. Les hommes arrivent à penser parce que la vie quotidienne, la vie matérielle est assurée par des valets, par des servantes, par des... Bon, prenons Auguste Comte. Il a cette prolétarienne sublime, etc., qui n'est pas la muse, qui est Clotilde Vaux, mais qui est celle qui accomplit les tâches et qui lui prépare ce dont il a besoin pour pouvoir, par exemple, peser sa nourriture de façon très, très méthodique, puisqu'il se nourrissait de façon... Il y a des méthodes pour penser. Nous en trouvons le schéma dans tous les livres des philosophes. Mais il y a, à côté de ces schémas pour penser, il y a ces schémas matériels pour vivre. Et ils sont tous obsessionnels.
Et les deux sont tous hyper, hyper tous intrinsèquement liés. On va écouter la voix de Christina. Elle vous a lu et elle fait appel à un souvenir d'enfance.
Bonjour le Book Club. Bonjour Marianne Alphand. L'atelier des poussières. Quel magnifique titre. Pourquoi ? Parce que je suis obsédée et enchantée par la poussière. Quand j'étais petite, je cherchais les recoins des bibliothèques, des étagères où il y avait de la poussière pour pouvoir y dessiner des œuvres d'art bien éphémères parce que elles étaient balayées très rapidement pour ma plus grande tristesse. Votre ouvrage a fait rentrer par ma fenêtre une autre vision de la poussière, des poussières au pluriel. J'ai adoré vous voir aussi confronter ces personnages qui font l'histoire de la littérature et de la philosophie à ceux et celles qui font la poussière, à ceux et celles qui font le ménage.
Merci beaucoup Christina pour ce témoignage de lecture et pour ce souvenir d'enfance. Marianne Alphand, les dessins comme ça éphémères de notre auditrice Christina sur la poussière dans la bibliothèque qui sont balayés par le plumeau ou par le chiffon ramènent aussi une autre trame de votre livre, L'atelier des poussières. C'est l'enfance ou l'ami d'adolescence, enfin quelque chose de... C'est canaille le mot qui me vient.
Mais
oui, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Alors que cette amie, Anne, qui est une autre présence comme ça de votre livre, étudie des choses sérieuses, vous avez des conversations sérieuses sur les philosophes, etc. Mais il y a quelque chose d'enlevé. Ce sont des jeunes femmes enlevées que vous partagez, je trouve. Comme présence.
Oui, peut-être, nous étions jeunes. Nous étions jeunes. Et donc, bien sûr, c'était le moment où on découvre à la fois la philosophie et la matière. Alors, la matière, ça peut être aussi l'amour, le désir, le sexe, les liaisons, etc. Bon, ça, je n'en parle pas, c'est un autre chapitre du livre. Mais donc, j'imagine cette espèce de mélange de quotidienneté et de métaphysique. Et au fond, c'est ça notre vie.
Oui, hein. Et puis c'était votre vie très fort à l'époque.
Oui,
et ça l'est encore, finalement.
Je crois que ça l'est encore pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a les idées, il y a les rêveries, etc. Puis il y a les choses dont il faut qu'on s'occupe. On arrive, on entre dans un appartement, on rentre chez soi, on va dans la cuisine, et flûte, il y a quelque chose à faire, là. Bon, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, La poussière, à la fois, elle est omniprésente, elle nous contraint, nous la laissons faire, se déposer, et puis finalement, non, il faut la chasser, et ça revient. Donc c'est un débat permanent qui est de l'ordre, quelquefois, justement, de la jouissance aussi, hein, indéniablement. Mais, on a une espèce de... C'est tellement familier que, quelquefois, ça cesse de nous gêner et on l'aime. Et on dessine sur elle et on s'en fout. On la... Voilà. Il y a un abandon. Il y a, bon, voilà, on tapote et ça... Alors ça, justement, dans le tapotage, il y a quelque chose qui était assez merveilleux que j'avais trouvé, qui était ce texte de Léonard de Vinci... observant la poussière. Bon, alors, où est-ce qu'il trouve de la poussière? Dans un atelier, sans doute. Et donc, il va essayer de comprendre comment elle se soulève. On tape, elle se soulève, elle retombe, elle forme un tas, etc. Bon, on peut jouer avec la poussière. Je me souviens que Anne Portugal, qui est publiée aussi chez Paul, qui est une poète formidable, me racontait que dans son enfance, par exemple, elle adorait trouver les moutons de poussière, hein, parce que ça forme des petits cocons, etc. Et elle les mettait dans des boîtes d'allumettes. Bon, on peut...
Élevage de moutons de poussière.
Voilà, élevage de poussière. Voilà, bah, et oui, bien sûr, on tombe sur du champ.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et toutes les semaines à cette heure-ci, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédaction internationale de Radio France en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, le Book Club sera en Turquie, plus précisément à Diyarbakır, dans le sud-est du pays, présenté comme la capitale des Kurdes en Turquie. Et c'est avec vous, Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Vous nous emmenez dans un lieu bien particulier.
Oui, il s'appelle Vejege Ahmed. Vejege en kurde signifie littérature. Et Ahmed, c'est le nom kurde de la ville de Diyarbakır. Il comprend une petite maison d'édition, lisse, avec un café, des salles de rencontre pour les écrivains et leurs lecteurs, deux chambres pour accueillir des écrivains en résidence. L'idée de Lallalesh, l'un de ses fondateurs il y a 20 ans, c'est de donner de la visibilité aux auteurs kurdes en les publiant, en assurant leur traduction dans d'autres langues et aussi d'ouvrir la population kurde à la littérature du monde en traduisant les ouvrages étrangers en langue kurde, essentiellement le kurmanji. À son catalogue, 600 titres, 500 d'auteurs kurdes et une centaine d'auteurs étrangers avec deux priorités, la littérature féminine et l'écologie. On peut ainsi lire Marguerite Duras en kurde, mais aussi Foucault, Herta Müller, Ali Smith ou encore Gabriel Garcia Marquez. C'est un lieu d'expérimentation, explique Lallalesh. Parce qu'ajoute-t-il, Diyarbakır est une ville multiculturelle, un carrefour des religions, une ville où se croisent plusieurs langues, une ville qui, avant d'être kurde, fut habitée par des chrétiens, des arméniens, des yézidis, des alévis, et il entend faire vivre cette diversité aujourd'hui. Tous les deux ans, l'Al-Alech organise à Diyarbakır un festival pour favoriser ces rencontres. Cette initiative est née d'un constat. Diyarbakır a du mal à se faire entendre. Les écrivains kurdes ne sont pas connus au-delà du fleuve Euphrate, même dans les autres villes de Turquie. Alors, ouvrir cette maison d'édition pour l'Al-Alech, c'était donner au monde à connaître la littérature kurde, mais aussi ouvrir la culture kurde au monde pour qu'elle entre en résonance avec les autres littératures.
Et pourquoi, Marie-Pierre, ce travail en langue kurde? Quelles en sont peut-être les difficultés là-bas?
Eh bien, comme vous le savez, la République turque, lors de sa fondation, a interdit toute publication en langue kurde. C'était le 3 mars 1924. Et cela au nom de l'État-nation, de la République une et indivisible, qui a écrasé les minorités. Depuis, parler le kurde continue à faire vivre. Cette langue est un combat. Elle n'est pas enseignée. C'est d'ailleurs une revendication de longue date de la part des Kurdes ici. Cette langue est décriée, dit Lal. Alors, comment la faire vivre? Comment écrire? Comment créer dans une langue opprimée, s'interroge-t-il? Comment faire de la philosophie avec cette langue persécutée? C'est son engagement pour donner un statut à la langue kurde. Il faut donc un engagement politique, des lois, afin que la langue kurde ait le droit d'exister. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi, insiste l'Al-Alech, que les gens se l'approprient pour la rendre vivante, parce que tant qu'elle ne pourra être utilisée pour gagner sa vie, pense-t-il, dans les échanges, dans le commerce, à l'hôpital, dans les administrations, tant qu'elle n'aura pas cette reconnaissance, sa littérature aussi sera condamnée. Il mène donc ce travail patient pour faire exister la langue kurde à l'écrit, pour l'enrichir aussi par la traduction de concepts, d'idées venues de la littérature mondiale. Un travail modeste, mais essentiel.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On peut vous réécouter, comme toutes les chroniques Lectures sans frontières, sur la page du Book Club franceculture.fr. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, tous les jours, Marianne Alphand, on traque non pas la poussière et les particules de poussière, mais la musique. À chaque évocation musicale, hop, on corne une page de plus. On demande aussi à nos auditeurs et auditrices de le faire, de nous l'envoyer notamment par mail lebookclub@radiofrance.com ou sinon via le compte Instagram. Et on a trouvé de la musique dans votre livre. Ranger mon bureau, trier, relire la rencontre de Pip avec Miss Havisham dans le mausolée dickensien des Grandes Espérances avant de refermer le livre. Chercher le chiffon qui n'est jamais à sa place en fredonnant la chanson de la fée de Cendrillon. Salagadou, la Menchikabou, la Bibidibo Bidibou. Une poussière de fée magique, une pluie d'étoiles à chaque tournoiement de la baguette, citrouille hop, carrosse pour le bal. Rien de tel ici, allez, un refrain plutonique.
Salagadou, la Menchikabou, la Bibidi-Bobidi-Bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-Bobidi-Bou. Salagadou, la Menchikabou, la Bibidi-Bobidi-Bou. C'est de la magie ou je ne m'y connais pas. Bibidi-Bobidi-Bou. Salagadoula veut dire la Menchikaskou bidou. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est Bibidi-Bobidi-Bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi?
Nous, on l'a dans la tête depuis des heures et des heures, Marianne Alphand. Donc, on la sème comme ça, ah oui, comme la poussière.
C'est formidable de retrouver, de l'entendre.
Dans les oreilles de nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
L'Atelier des poussières, c'est le titre de votre livre paru aux éditions POL. À la réalisation de ce book club, c'était Anna Holweck. À la prise de son, François Saint-Jour. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr.